Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
C'est avec l'arrivée des rebelles que j'ai fui parce qu'ils ont sémé la terreur au sein de la population.
Ils ont commencé à tirer en l'air, ils ont dit Allahu Akbar. Après ça, ils ont dit que où est l'argent? Moi, j'ai dit que je n'ai pas d'argent.
On ne veut pas que la guerre recommence. Nous voulons que ce soit la fin et non le début.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition hebdomadaire de Sahel+. Aujourd'hui, au sommaire, coup de tonnerre au Burkina, Blaise Compaoré ne peut pas être jugé pour haute trahison. Le Tchad encourage le retour volontaire des réfugiés soudanais. Les États-Unis mettent la main à la poche pour la consolidation de la démocratie au Mali. Rubrique santé, les dangers de la dépigmentation artificielle de la peau au Bénin. Enfin, 40% de la population des 15 ans et plus n'ont pas accès aux services financiers au Togo. Voici tous les sujets que nous allons développer dans Sahel+. Restez avec nous. Au Burkina Faso, le procureur général près de la Haute Cour de justice a affirmé lors d'un point de presse pendant le week-end qu'en l'état actuel des choses, l'ancien président Blaise Compaoré ne peut pas être jugé pour attentat à la Constitution et haute trahison. De Ouagadougou, les raisons et réactions dans ce reportage de Zoumana Wonogo.
C'est publiquement face à la presse que le procureur général, près la Haute Cour de justice, Armand Ouédraogo, a lancé ce pavé dans la mare.
Blaise Compaoré a été mis en accusation pour haute trahison et attentat à la Constitution. Mais si vous prenez la haute trahison, l'attentat à la Constitution, ce ne sont pas des infractions dans le droit positif. On a affirmé haute trahison, attentat, on doit juger le chef de l'État pour ça. Mais si vous ne dites pas d'abord en quoi consiste la haute trahison ou l'attentat, vous voulez que le juge puisse traiter le dossier comment?
Comment les Burkinabés ont reçu cette déclaration?
Ça me décourage. S'il ne peut pas juger, c'est peut-être question de temps. Si toutes les conditions sont réunies, il va être jugé. Ça c'est clair. Il ne peut pas rester injugeable. Pas possible. Après tous les crimes, Blaise serait jugé. Ce qui est sûr, Blaise serait jugé. Toutes les formes seront réunies pour qu'il soit jugé, ça c'est clair.
Je ne suis pas vraiment satisfait de cette déclaration parce qu'on voulait que justice soit rendue à ceux qui se sont battus pour notre insurrection. Maintenant, quand ils disent que le président Blaise Compaoré ne peut pas être jugé, nous sommes vraiment très découragés.
Alors moi, en tant que citoyen, je suis vraiment très déçu de l'avis donné par le procureur. Mais je pense que la loi, elle est faite par les hommes. Il y a une possibilité pour vraiment arriver à mettre la main sur Blaise et le juger en toute transparence et en toute équité. Parce qu'il revient au Burkinabé d'avoir la vérité et de connaître réellement ce qui s'est passé.
Pour Idrissa Nogo, coordonnateur du mouvement « Plus rien ne sera comme avant », il faut plutôt pointer le doigt accusateur sur le CNT, le Parlement de la Transition.
Les organes de la transition se sont vantés d'avoir voté massivement un certain nombre de lois. Ils ont même permis de comparer cette prouesse-là à la législature du temps de Blaise Compaoré, qu'ils auraient donc dépassé en matière donc de vote de loi vu sous l'angle de la quantité. Ce n'est pas la quantité qu'il faut mettre en exergue, c'est plutôt la qualité des lois votées, l'effet qui devait être donc suivre pour la mise en exécution de ces lois-là. Ils se sont contentés de prendre des lois. Voilà qu'effectivement, un certain nombre donc de dispositions qui ne leur permettent pas forcément donc de mettre en accusation un certain nombre de personnalités.
Le procureur général, après la Haute Cour de justice, se donne un délai de 3 mois pour juger les ministres, dont Blaise Compaoré, mais cette fois-ci en tant que ministre de la Défense. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Tchad, s'est tenue le 29 septembre dernier à Abéché la deuxième réunion tripartite Tchad, Soudan, HCR, pour le retour volontaire et librement consenti des réfugiés soudanais se trouvant dans l'est du Tchad. De N'Djamena, la correspondance d'André Komadjingar.
Conduite par l'assistant coordonnateur de la commission des réfugiés du Darfour, Forsa Moudjib Al-Rahman Mohamed, cette mission a du mal à convaincre les réfugiés soudanais, plus de 300 000 vivant sur le sol tchadien depuis 2003. Répartis dans 12 camps dans les trois régions de l'est du Tchad, à savoir le Wadaï, le Wadi Fira et l'Enidi Est, ces réfugiés ont les mêmes préoccupations. La sécurisation des trois régions du Darfour. Dehi et Idriss Kamis, c'est le président des réfugiés du camp de Breding.
Nous sommes des réfugiés de guerre et le retour volontaire dont le chef de résolution fait allusion à des préalables. Est-ce que les milices Janjaweed qui opèrent dans les trois régions du Darfour sont déjà désarmées? Est-ce qu'on a déjà renvoyé ceux qui ont occupé nos terres depuis 2003? Est-ce qu'on a jugé les auteurs des crimes contre l'humanité et génocide dans le Darfour? Est-ce qu'on a construit les localités détruites? Est-ce que les déplacés internes sont déjà réinstallés? C'est toute la problématique. Tant que toutes ces conditions ne sont pas réunies, on ne parlera pas du retour volontaire.
Dans certains camps, les réfugiés qualifient les membres de la délégation soudanaise des victimes comme eux et donc ils n'ont pas qualité à entreprendre cette démarche. Où sont nos vrais bourreaux du Nord qui ont tué nos parents, brûlé nos villages et pillé nos biens, s'interroge-t-il. Nous exigeons la démission et le jugement du président El-Béchir ainsi que ses complices et l'intervention de la force onusienne dans le déminage de certains villages du Darfour, ajoute-t-il. Le délégué régional de la Commission nationale d'accueil des réinsertions des réfugiés et des rapatriés côté tchadien, Ali Abdoulaye Idriss, trouve légitime l'inquiétude exprimée par les réfugiés.
Les réfugiés, ils parlent le même langage. Ils ont demandé à la délégation de repartir, réinstaurer la paix d'abord au Soudan. Donc je pense que leurs revendications étaient légitimes de ma part. Notre institution est tenue de respecter les engagements vis-à-vis de la communauté internationale parce que le Tchad a ratifié la convention de 1951 relative aux statuts de réfugiés. On ne peut pas imposer les réfugiés dans les temps qu'il n'y a pas la paix dans leur pays d'origine.
Forsa Moudjib Al-Rahman Mohamed, chef de mission soudanaise, dit avoir pris acte des préoccupations des réfugiés qui seront transmises à qui de droit.
On a écouté ces réfugiés, tout ce que les réfugiés disent, nous découvrons beaucoup de choses et les recommandations seront transmises finalement au gouvernement soudanais parce que nous ne voulons pas qu'un réfugié rentre aujourd'hui et lendemain il sera de retour encore ici au Tchad. Raison pour laquelle nous cherchons le retour durable pour ces réfugiés.
André Kodma Djingar de Retour de l'Est, N'Djamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Direction le Mali à présent. À Bamako, les États-Unis et le gouvernement malien ont signé une convention pour la consolidation de la démocratie dans le pays. Pour plus de détails sur cet accord de subvention, notre correspondant sur place, Kassim Traoré.
Cette signature de convention qui avait pour cadre la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a été une occasion pour l'ambassadeur des États-Unis au Mali de réaffirmer l'amitié et le partenariat des États-Unis d'Amérique envers le Mali, car les USA veulent un Mali plus fort, sûr et prospère. C'est pourquoi il dira que la signature de cette convention est une preuve supplémentaire de leur engagement envers le Mali. Paul Folsby, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, au Mali.
Le montant total de cette subvention est de 6 430 000 dollars américains, soit 3 215 millions de francs. Cette subvention aidera le système judiciaire malien dans la prise en charge des besoins des Maliens. Elle offre une assistance pour la mise en œuvre de programmes d'urgence pour le renforcement du système judiciaire et la mise en œuvre de la Cour d'Alger. L'initiative présidentielle SGI dans le secteur de la gouvernance et de la sécurité.
Cette subvention aidera le système judiciaire malien dans la prise en charge des besoins des Maliens en offrant une assistance pour la mise en œuvre du programme d'urgence pour le renforcement du système judiciaire et la mise en œuvre de l'accord d'Alger.
Elle assistera l'État malien à assurer le retour de l'administration dans la région de Kidal et à reconstituer le tissu social et prendre en charge les besoins immédiats des populations de Kidal. Enfin, cette subvention aidera le Mali dans ses efforts de prise en compte des besoins spécifiques des personnes vivant avec des handicaps. Le Mali est un pays de solidarité avec justice sociale. Le gouvernement des États-Unis sont réjouis et en fiers de vous accompagner dans ce sens.
Au-delà du secteur de la justice, la subvention appuiera le gouvernement du Mali dans l'élaboration de sa stratégie nationale de lutte contre l'extrémisme violent. Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale.
Les questions liées à l'extrémisme, les questions liées aux sources du conflit qui permettront aussi de renforcer le capital humain dans ce pays. L'enveloppe financière qui est décidée dans ce cadre est une enveloppe importante du Mali. Je ne peux que vous donner l'assurance, mesdames et messieurs, que pour notre part, le gouvernement et l'ensemble des services techniques techniques maliens mettront tout en œuvre pour une exécution diligente et correcte de cette contribution importante à la stabilisation du Mali.
À la fin de la cérémonie, Paul Folsby a félicité le gouvernement du Mali dans ses efforts d'unification du pays, tout en cultivant une paix durable, car les Américains veulent que le Mali s'assume dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le phénomène de la dépigmentation artificielle de la peau continue de défrayer la chronique. Ceux et celles qui cherchent à s'éclaircir la peau, pensant que c'est plus beau ainsi, ne se rendent pas souvent compte des dangers qu'ils courent. Reportage de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
Au marché d'Antokpa, le plus grand centre commercial du Bénin, on y rencontre un peu de tout, mais surtout ces hommes et femmes qui offrent des conseils de beauté. Ils vendent surtout des mélanges de savon et de pommade pour le corps, pour tout type de peau, mais beaucoup plus pour ceux qui veulent passer de la peau noire à la peau claire. Mais une association œuvrant pour la sauvegarde de la peau noire, après plusieurs séances de sensibilisation, a réussi à arracher au métier quelques-uns qui étalent ici les dangers du phénomène.
Il y a des gens qui grossissent. Alors normalement, on croit que c'est de la bonne santé, mais ce sont des gens qui sont remplis de sel et d'eau.
La dépigmentation est une mauvaise pratique. La surveillance de la grossesse chez une femme dépigmentée est une grossesse pathologique.
Tout produit cosmétique aujourd'hui au Bénin depuis 2012 doit avoir une autorisation de commercialisation avant d'être commercialisé au Bénin.
Toutes les femmes béninoises ne sont pas férues de la pratique. Il y en a tout de même qui pensent qu'agresser sa peau à l'aide de produits dépigmentants n'est pas le signe extérieur d'une quelconque beauté.
Partie d'une peau noire pour devenir une blanche, pour ne s'arrêter qu'aux femmes. Ça, c'est une manière de défier la nature, de défier l'autorité de Dieu. C'est d'abord une question d'éducation parce qu'il y a des peaux noires qui sont belles. Donc, il faudrait que les femmes ou les hommes qui s'adonnent à ces pratiques arrivent à s'assumer, c'est important, à s'accepter telles qu'elles sont. Ce n'est pas une référence que d'avoir la peau claire. Mais la référence, c'est d'être propre.
Alors que la société béninoise avait encore du mal à accepter la pratique au niveau des femmes, elle s'est heurtée au goût prononcé des hommes pour la chose. Les hommes le font et parfois mieux que les femmes, et ceci pour les raisons que voici.
Nous remarquons que les hommes se dépigmentent pour pouvoir plaire aux femmes, pour que ces dernières investissent dans leur subsistance. Ce sont elles qui achètent les produits éclaircissants, ce sont elles qui les habillent.
Anaïs est dermatologue, elle reçoit à son cabinet des patients dont la peau reste marquée par les conséquences néfastes de l'utilisation abusive et répétée des produits dépigmentants.
Les problèmes de peau importants comme la diminution de l'épaisseur de la peau et également des infections graves dues à des champignons, des bactéries, etc. car la peau ne peut plus lutter contre les agents extérieurs qui pénètrent directement dans le corps. Les personnes qui se dépigmentent sur une durée prolongée ont des problèmes d'hyperthyroïdie, d'hypertension, de diabète et aussi de cancer de la peau.
La dépigmentation est un phénomène commun à bon nombre de pays africains, mais au Bénin, elle prend une allure vertigineuse au mépris des conséquences pourtant irréversibles. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Au Togo, 40% de la population des 15 ans et plus n'ont pas accès aux services financiers. C'est ce que révèle une enquête sur l'inclusion financière. Les résultats ont été publiés cette semaine dans la capitale togolaise. Kailosom Alomé, écoutons son reportage.
La typologie de l'inclusion financière de la population togolaise de la tranche d'âge 15 ans et plus est désormais connue. Ce sont les résultats d'une enquête réalisée du 17 mars au 24 avril dernier sur la demande en services financiers des Togolais qui la révèle. Cette enquête, dénommée Finscope Togo 2016, a permis d'avoir des statistiques sur l'accès aux services financiers dans le pays. Akoli Gentry, directeur technique de l'enquête Finscope.
18% des Togolais utilisent les services financiers. Mais quand on étend aux microfinances, on se retrouve à 45% et quand on étend à toutes les institutions, on se trouve à 60%. Donc ce qui veut dire que 60% des Togolais adultes, à l'âge de 15 ans et plus, utilisent les services financiers. Par rapport au crédit, seuls 27% de cette population a déclaré avoir eu du crédit. On se dit que ce taux est très faible. Et la raison principale évoquée, c'est que les gens n'aiment pas s'endetter.
L'accès au crédit doit avoir une incidence sur le pouvoir d'achat des Togolais, estime Dodi Kumunete, président de l'association Veille économique.
Le seul fait d'avoir accès au crédit ne résout pas le problème. Il faut une économie dynamique, il faut développer un certain nombre de secteurs qui sont essentiels à l'évolution de notre économie pour permettre à tous ces projets qui sont financés de pouvoir être rentables dans la durée.
Finscop Togo 2016 s'inscrit dans le cadre du programme « Rendre possible l'accès aux services financiers » qui a pour finalité d'améliorer l'inclusion financière en tenant compte des besoins réels des populations. Parmi les initiatives prises à cette fin figure le projet de transfert d'argent aux femmes financièrement vulnérables. Joëlle Bessinger, représentante résidente de la Banque mondiale au Togo.
Nous avons dans le projet de développement communautaire, sous son acronyme PDC+, un volet de transfert monétaire pour les femmes qui sont enceintes ou qui ont des enfants de 24 mois ou 2 mois pour assurer la nutrition de l'enfant. Et donc, ce petit transfert monétaire qu'elles reçoivent chaque mois peut permettre à la femme, avec les autres ressources qu'elle a, de faire des petites épargnes ou des dépenses pour améliorer le bien-être du foyer.
Finscop Togo 2016 recommande d'éduquer la population togolaise sur le système financier qu'elle ne semble pas maîtriser dans sa grande majorité. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la production, Michel Joseph, au micro Claire Morin-Gibourg. Rendez-vous mercredi prochain, 18h10, temps universel sur VOA Afrique. Nous nous quittons en musique avec le Sud-Africain Nakan Touré qui vient de sortir une version presque a cappella de son titre We Dance Again, réalisé avec Black Coffee. Bonne soirée et bonne nuit à tous. Come back.
VOA Afrique.